Bonjour à toutes et à tous, et c'est une grande joie de vous parler ce matin de la bénédiction de Jacob. Alors Yann a pas tout tort lorsqu'il a présenté le thème. J'ai été assez avare en information. J'ai reçu un message, ah, tu prêches sur quoi? Et je lui ai répondu, la bénédiction de Jacob. Donc ce que j'apprécie avec le récit de Jacob, c'est que tout au long de son histoire, il récapitule certains des thèmes que nous avons abordés les dimanches passés. Toute la vie de Jacob est à lire en parallèle avec la bénédiction. La bénédiction est omniprésente tout au long de sa vie. Et je discutais il y a deux semaines après ma prédication, et l'un d'entre vous, que je nommerai pas, m'a fait remarquer que j'étais un peu évasif sur la notion de bénédiction, que je la définissais pas strictement. Et c'est bien parce que c'est très difficile de définir qu'est-ce que la bénédiction. On voit au tout début de la Genèse, la bénédiction est une parole performative de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit « Je bénis l'homme » et l'être humain est béni. Ensuite, avec les patriarches, et notamment dans l'histoire de Jacob, la bénédiction prend ce rôle de la transmission de la promesse. Transmettre la promesse d'Abraham et cette transmission en vue de Jésus-Christ. Et non seulement elle transmet la promesse, mais elle a aussi un aspect officiel, j'ai presque envie de dire social ou légal. On a l'impression que la bénédiction permet d'officialiser les rôles à la mort du patriarche. C'est-à-dire qui reprendra en main la famille à la mort de celui-ci. Et généralement, dans les patriarches, il y a cette notion d'hiérarchie. Tes frères te seront soumis, les fils de ta mère t'obéiront. On voit là dans le récit, elle a cette, non seulement ce rôle de transmission, mais aussi la bénédiction d'organisation sociale. Et ensuite, on arrive à Moïse. Et à partir de Moïse, on retrouve des expressions, la bénédiction devient la conséquence logique du respect fidèle de la loi. Si tu respectes la loi, tu es béni. Et ensuite, avec Jésus, la bénédiction devient une personne. Avec Jésus, elle réalise la promesse, et en particulier celle-ci, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Je te retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder mes commandements. Et donc, on voit bien qu'il y a cette évolution dans la notion de bénédiction et que cette évolution, ça rend le concept flou, difficile à définir. Et tout au long de ma série, j'ai volontairement gardé cette ambiguïté. Parce que je crois que la bénédiction est ambiguë. Et que je vous laisse choisir quel type de bénédiction je suis en train de parler. Je disais, je me réjouis de prendre Jacob parce qu'il récapitule tout ce qu'on a vu au sujet de la bénédiction. Et premièrement, le premier aspect que j'aimerais souligner, c'est son obsession pour la bénédiction. Avant même qu'il soit né, une parole prophétique est donnée à Rachel, qui dit... Non, c'est pas Rachel. À sa maman. Qui est donnée à sa maman et lui dit « Le cadet... surplantera l'aîné. » Ensuite, Jacob vole le droit de, enfin non, il achète le droit d'aînesse à Ésaü. Ensuite, on a le fameux épisode où Jacob vole la bénédiction à Ésaü. Du coup, il y a un peu une tension. Du coup, Jacob est rebéni par son père avant de partir. En chemin, Jacob est béni là directement par Dieu, c'est-à-dire qu'il rencontre Dieu à Bethel, vous voyez, avec l'échelle. Et après cela, on voit que Jacob est rebéni tout à la fin, lorsqu'il a cette confrontation avec un homme. On pense que c'est Dieu avec qui il a lutté. Et donc, tout au long de sa vie, Jacob va chercher la bénédiction. Il va la vouloir, il va la désirer. Et je crois que ça peut nous parler à nous. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une obsession, mais d'une certaine façon, nous sommes tous un peu à la recherche d'une bénédiction. Nous souhaitons tous être bénis. Nous voulons tous la bénédiction. Un peu à l'image de Jacob. Alors pour lui, ça prend une tournure assez, assez importante, une obsession. Mais je crois que c'est important déjà d'assumer ce désir qui est en nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il est faux, ou peut-être même qu'il est, il est fourbe, mais... aujourd'hui, quand on parle de la recherche du bonheur, de cette nécessité d'être heureux, de s'épanouir, lorsqu'on se parle de santé, lorsqu'on se bénit les uns les autres, c'est à chaque fois motivé par cette envie d'être béni. Et au-delà de cette obsession pour la bénédiction, je trouve que Jacob est un personnage attachant. Il est attachant parce qu'il est authentique. Il n'est pas parfait, il fait des erreurs, il se fait tromper, il trompe, et ça montre bien l'humanité de Jacob. Et je pense que c'est là que ça doit nous encourager, à prendre Jacob comme un modèle, comme un exemple, et voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de son histoire. Alors on peut aussi le prendre comme un contre-exemple, hein, c'est aussi possible. Et le premier aspect que j'aimerais prendre, Jacob est béni malgré sa tromperie. Et c'est vrai que c'est assez frappant, on lit dans les phrases... Isaac dit « Serre-moi du gibier », il y a toute l'histoire. Et ensuite, il lui demande « Es-tu bien mon fils ? Est-ce bien toi mon fils, Ésaü ?» Et Jacob répondit « C'est moi. » Jacob ment à son père. Vous êtes d'accord avec moi que mentir, c'est pas bien. C'est méchant, mentir. Je dirais même « C'est péché. » Et pourtant, Jacob va être béni. Et je trouve frappant de constater, il y a certains commentaires, ils sont mal à l'aise, alors ils essayent de nous expliquer pourquoi est-ce que Jacob n'a pas vraiment volé la bénédiction de son frère. Oui, mais vous voyez, comme avant sa naissance, il avait reçu cette parole prophétique, ça veut dire qu'en fait elle lui revenait de droit... Et donc, il n'a pas vraiment volé, il a juste pris ce qui lui appartenait. Alors moi, je ne rejoins absolument pas cette interprétation. On voit bien, Jacob ment à son père. « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Et non seulement... il est béni par la bénédiction de son père, mais quelque temps après, sur le chemin pour aller à Charan, Jacob est de nouveau béni par Dieu. Donc vous vous imaginez, Jacob ment, il est béni par son père, du coup il a peur, on pourrait dire il doute un peu de la bénédiction, il quitte pour se joindre à Charan et il est de nouveau béni, et cette fois-ci directement par Dieu. Et on peut se demander, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'une personne qui trompe peut recevoir la bénédiction? Et ça rejoint ce que j'avais dit, la logique de Dieu n'est pas forcément la nôtre. La façon dont le plan de Dieu se déroule dans l'histoire, ce n'est pas forcément à notre manière. Et cette vérité, elle est renforcée par le droit d'aînesse. Est-ce qu'il y a des aînés parmi vous, là, ce matin? Ah, je vois qu'il y en a quelques-uns. Moi, je dois reconnaître, comme on est nés trois en même temps, donc je suis triplé, et que c'est ma sœur qui est née en premier, si je prends stricto sensu ce que le texte montre, on voit bien que du coup, les filles comptent pas, puis du coup, c'est quand même moi l'aîné. Mais du coup, comme notamment dans les patriarches, la bénédiction est jamais transmise à l'aîné, je ne sais pas si vous voyez, Abraham est cité en troisième par rapport au fils de Terah. Donc ça laisse supposer que Abraham est le troisième fils, le petit dernier de Terah. Isaac est le second fils d'Abraham. Le premier, c'est Ismaël. Jacob est également le deuxième fils d'Isaac. Et on peut aller plus loin avec les figures comme le roi David, qui n'est pas l'aîné, avec même Salomon. Salomon n'est pas l'aîné. Et tout au long de la Bible, de voir ces figures qui ne sont jamais les aînés. Et c'est bien pour cette raison que j'accorde le droit d'aînesse à ma sœur. Parce que je me dis, il vaut pas bien d'être aîné dans la Bible. Dieu aime bien renverser nos raisonnements. Ce droit d'aînesse était là, pourquoi ? Pour apporter une continuité, une stabilité à la famille. Et on partait du principe que c'est celui qui a le plus d'expérience, qui est le plus âgé, qui sera le plus compétent pour perpétuer la famille, pour prendre soin de la famille. L'histoire nous montre bien que l'expérience ne fait pas tout et que, voilà, c'est pas forcément cette logique et c'est ça que Dieu vient renverser. La bénédiction n'est pas une équation qui est juste pour nous. Et lorsqu'on voit certaines personnes qui sont bénies et d'autres pas, on se dit quand même, c'est pas cool. Hein. Je suis frappé de constater cette logique humaine comme elle est innée. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé très rapidement avec les enfants. Là, par exemple, en bas, j'ai un paquet de Sugus, vous savez, dans mon bureau pour quand j'ai des entretiens. Je suis sûr que si je vais prendre un Sugus à la vue de tout le monde et que je le donne à un seul enfant et je lui dis « je te donne à toi ce Sugus » et je dis aux autres « je vous en donne pas », je vais me retrouver avec une révolution. C'est pas juste, pourquoi ? Et pourtant, Dieu passe par d'autres chemins que les nôtres. Je me permets quand même de le dire entre parenthèses, il n'y a pas de droit à la bénédiction, mais c'est vrai qu'en étudiant les textes, j'ai remarqué que s'il y a une chose qui augmentait le pourcentage de chances d'être béni, sans pour autant être une condition, c'est la fidélité. Lorsqu'on est fidèle dans ses relations, dans ses engagements, dans ses paroles, lorsqu'on est fidèle avec celles et ceux qu'on côtoie, c'est généralement plus facile d'être béni que lorsqu'on trompe tout le monde. Voilà. Et donc, voilà notre premier point. Malgré la tromperie, malgré le péché, Jacob est béni. Et nous, ça nous décharge d'un poids. C'est-à-dire, si je suis béni, je peux être reconnaissant envers Dieu, mais si je ne le suis pas, ce n'est pas forcément parce que j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas forcément parce que je suis infidèle. Dieu nous libère de ce poids. Ensuite, on lit dans Genèse 32, à partir du verset 27. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Je trouve cette histoire quand même particulière. Déjà, c'est confus. On nous dit que Jacob a le dessus, mais que du coup, il se fait déboîter la hanche. Donc on se dit, il a si le dessus que ça. Ensuite, il a la hanche déboîtée, mais il empêche l'homme de partir. On se dit, mais enfin, une fois que tu as la hanche déboîtée, tu es allongé par terre, tu peux pas tellement commander beaucoup de choses. Enfin, voilà. Et après, l'ange finit par lui dire « Tu as été vainqueur. » Et on se dit, c'est quand même particulier. C'est quand même particulier. On a presque l'impression qu'en fait, Jacob est défait. Que Jacob perd le combat, qu'il est blessé. Et moi, je trouve réconfortant de voir que alors on dira que peut-être la défaite n'en est pas une, mais que Jacob est béni par une blessure. Jacob est béni en perdant un combat. Jacob est béni par une défaite. Et je trouve que ça s'oppose un peu à cette culture du succès, du triomphe. Ou pour réussir, ou pour s'épanouir, il faut absolument toujours gagner et toujours briser l'autre. Non. Jacob a été béni dans une défaite. D'ailleurs, une défaite assez particulière. On nous dit que Jacob a la hanche déboîtée. Alors, on a deux solutions. Soit il s'est pris un coup d'épée par l'extérieur, ce que vous voyez un peu comme j'image. Puis du coup, mais c'est quand même difficile de déboîter la hanche comme ça. Certains commentateurs disent qu'il a dû se prendre en fait un coup depuis l'intérieur de la jambe, que ça lui a déboîté. Et c'est ce qu'ils appellent en fait une vasectomie brutale et irréversible. C'est-à-dire, une fois que tu t'es pris un coup, enfin voilà, non, mais c'est une manière brutale de mettre fin à ça. Et ils expliquent que c'est du coup paradoxal. Alors que la bénédiction, c'est la transmission, alors que la bénédiction, c'est la multiplication, là, Jacob a pu être béni par un acte qui met fin à sa fertilité. Alors vous me direz peut-être que ces femmes étaient contentes, étant donné qu'il avait déjà 12 enfants. Elles se sont dit « Oh, bah, c'est pas si grave ». Jacob est un peu cet anti-héros, cette personne qui est pas héroïque, qui fait des erreurs, et pourtant il est béni, et pourtant il est mis à l'épreuve. Jacob a dû lutter malgré sa bénédiction. La bénédiction, dans tous les cas, n'est pas un passe pour la facilité, n'est pas un ouvre-porte où tout est facile et tout est un long fleuve clair et tranquille avec un petit bruit seulement. Non, Même en étant béni, Jacob a dû lutter, il a été trompé par son beau-père et il a même dû travailler. Gardons-nous d'avoir cette conception de « si je suis béni, tout est facile ». Bien au contraire. Et troisièmement, ce qu'on apprend dans ce récit, c'est que Jacob est béni par un changement d'identité. Le texte nous dit « Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob, toute sa vie, il a cherché la bénédiction. Et il a été béni matériellement, il a été béni avec sa santé, il a été béni avec sa postérité. Et pourtant, on remarque que le moment où s'arrête sa quête pour la bénédiction, c'est au moment où son nom est changé. La prospérité matérielle, la santé, même si c'est quand même pas mal, avoir des enfants aussi larges que les grains de sable sur une plage, tout cela n'est peut-être en définitive pas ce dont nous avons le plus besoin. Et peut-être que Jacob ici pointe justement, le récit pointe justement sur ce besoin d'être béni intérieurement, sur ce besoin d'être transformé par Dieu. Et donc de la même façon dont Jacob a été transformé dans une rencontre, dans un face-à-face, nous aussi, nous avons besoin d'être transformés dans une rencontre, dans un face-à-face avec notre Dieu. Et nous le pouvons parce que Jésus-Christ, il y a bientôt 2000 ans, s'est donné entièrement pour nous. Et non seulement il s'est donné entièrement pour nous, mais il a abandonné toutes les richesses qu'on peut imaginer pour se faire homme, et il s'est livré pour nous. Jésus nous donne cette bénédiction qui est le déversement de l'Esprit dans nos cœurs. Et là, je reviens à cette bénédiction d'Abraham d'il y a 2 semaines. Dieu répand l'Esprit au milieu de nous pour que nous soyons transformés, que nous naissions de nouveau, pour que notre cœur renouvelé, nous ayons ses lois dans notre cœur et que nous puissions l'aimer de toute notre force. Et donc, pour conclure, j'aimerais vous laisser du coup avec ces trois éléments que nous apprend Jacob. Tout d'abord, ne vous en faites pas, la logique divine n'est pas la nôtre. Ne soyez pas trop frustrés de ne pas tout comprendre. Deuxièmement, n'ayons pas peur de s'engager, n'ayons pas peur d'essayer, même si parfois on passe par des échecs. Parce que Dieu peut quand même nous bénir. Et non seulement Dieu peut quand même nous bénir, mais Dieu nous conduit. Et finalement, laissons-nous transformer par cet évangile, laissons-nous transformer par ce message que Jésus-Christ est venu incarner et qu'il nous a apporté. Et comme à chaque fois, je vous dirais que je suis vraiment rempli de toute ma force, de cette volonté que vous soyez bénis. Et je l'espère. Alors, je vous l'annonce, je vous le souhaite. Soyez bénis au nom du Seigneur et rencontrez jour après jour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.